côté, le CAC 40 a profité des excellentes performances de LVMH. Le numéro 1 mondial du luxe a dévoilé mardi soir un chiffre d'affaires de presque 14 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année. La demande a été forte aux États-Unis et en Chine. L'action gagne 2,8% et signe la plus forte progression de l'indice phare parisien. La capitalisation boursière de LVMH dépasse désormais les 300 milliards d'euros. C'était Christelle Tagian, investir.rfi.
Merci Christelle. Ainsi s'achève le journal. Je vous retrouve à 19h, heure de Paris, pour d'autres informations d'ici là. Très bonne fin d'après-midi à notre écoute.
Milliards de voisins.
Emmanuel Bastide. Attends, vous témoignez.
Radio G.
Just wanna tell you.
101.5 FM.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse sur les ondes de Radio G. C'est la quotidienne consacrée aux actualités culturelles, locales et à toutes les belles choses qu'on a envie de partager avec vous. On est mercredi et avec moi dans le studio, il y a Céleste. Salut Céleste.
Salut Annie.
On te retrouve pour un nouveau guichet choral.
Comme tous les mercredis, exactement.
Une chronique dédiée au cinéma. Tu veux nous en dire plus ou c'est une surprise ?
Non, vous allez voir tout à l'heure. J'aime bien lasiner le doute.
Ce sera au milieu de l'émission.
C'est
très bien. Nous retrouverons ce soir Pierre Hugo qui sera en ligne pour un petit lexique du théâtre. Et il y aura aussi Tonton Albert pour sa chronique de mauvaise humeur qu'on a sauvée de peu pour vous la proposer ce soir. Voilà pour le programme. Trois chroniques tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Il y a un proverbe ce soir, comme chaque soir. Aujourd'hui, une démonstration vaut toutes les explications. Et on commence en musique avec un titre de Chaton, issu de son dernier album qui s'intitule Héros. Et le titre, c'est Sentimental.
J'aurais pas pu le dire sans te flexer. Seul endroit sur la terre où je respire. Dans la chambre des gosses, je retourne écrire. Très joli, très mollo, les jours de l'homme. Et peut devenir idiot comme un gendarme. Sentimental un jour, le lendemain fier. Santé mentale qu'appelait tout à l'enfer. Quelques preuves d'amour, quelques preuves de haine. Sentimental un jour, le lendemain dans une chienne. J'aurais pas pu me taire sans m'étouffer. T'aurais pas su le faire, donc j'ai tout fait. Dans la la chambre des cas surmontés. C'est dimanche soir en milieu de journée. Très joli, très mollo, très accordé. Mais ne tient qu'à un fil comme Kanye. Sentimental un jour, le lendemain fier. Sans la beauté ne serait que vulgaire. Très joli, très mollo, les jours de là. Mais peut devenir idiot comme un gendarme. Sentimental un jour, le lendemain fier. Santé mentale câblée tout à l'enfer. Quelques preuves d'amour, quelques preuves d'amour, quelques preuves de haine, quelques preuves de haine. Sentimental un jour, le lendemain dans une chienne. À prier que ça cesse, à prier que ça cesse. Cette éternelle tristesse.
Et on retrouve maintenant une bouteille aux trois quarts vide, la chronique de Tonton Albert.
Bonjour Anne-Lie.
Elle est vide, hein, la bouteille.
Oh, elle est vide, ouais. Elle est plus que vide, là. Eh bien, Anne-Lie, aujourd'hui, je te propose une chronique à haute valeur pédagogique. Soucieux des effets probables de toutes les calamités qui s'abattent sur les jeunes générations, la dernière en date étant la fermeture des écoles, j'ai pensé qu'il fallait apporter des parades pour aider nos chères têtes blondes à traverser cette mauvaise passe. Et pour tenter de lutter contre le décrochage scolaire, je vous propose aujourd'hui de faire quelques révisions.
Dans la bonne humeur, j'espère.
Sans aucun doute, Anne-Lie. Donc, les écoles sont maintenant aussi fermées que si elles étaient devenues des théâtres ou des cinémas. Et fatalement, l'acquisition des savoirs va en pâtir. Les profs sont désormais cachés dans le fond des ordinateurs. Écoliers, collégiens et lycéens ne comptent plus sur leurs doigts, mais sur la fiabilité du réseau Internet lorsqu'ils doivent faire leurs devoirs. Bref, les temps ont diablement changé. Heureusement, ces modifications qui bouleversent notre quotidien apportent également leur lot de surprises. C'est ainsi qu'au démarrage, l'écran de mon ordinateur s'ouvre chaque jour sur le message d'alerte suivant. Mot de passe expiré depuis 153 378 jours. D'ailleurs, ça a encore augmenté depuis que j'ai rédigé cette chronique.
Ah, mais c'est l'inflation, ça, Albert.
Ça doit être ça. Un rapide calcul vous apprendra que le dit mot de passe n'est plus valide depuis la bagatelle d'un peu plus de 420 ans et 6 mois. Je vous ai fait grâce des jours additionnels. Nous voici donc au tout début du XVIIe siècle, soit en 355 avant Bill Gates. L'on peut par conséquent déduire que l'ordinateur a été inventé par un contemporain de Henri IV. J'espère que ce n'est pas Jean Bodin. Ce qui place, preuve à l'appui, Steve Jobs et Bill Gates en position d'usurpateur ou de plagiaire. Tu vois, Anne-Lie, avec un seul exemple, et grâce aux époustouflantes propriétés de Windows 10, on a fait un peu de calcul et un petit focus sur la Renaissance, tout en ouvrant sur des perspectives qui interrogent.
Histoire, mathématiques, économie, philosophie peut-être, tout ça réuni sur un écran d'ordinateur en quelques mots, l'art de la synthèse.
Je crois en effet qu'il vaut mieux se limiter à quelques mots avec un écran d'ordinateur, car quand on passe à une phrase entière, ça se gâte un peu. C'est ainsi que récemment, Windows, qui m'envoie chaque jour une photo différente en guise de fond d'écran, a cru bon de lui associer un commentaire. Voilà donc que sur la jolie photo s'est affiché le message suivant. Des militants sociaux aux artistes, on peut dire qu'il n'y a rien que les femmes puissent accomplir. Je vois la féministe que tu es, Anne-Lie, être sur le point de s'étouffer.
Mais tu voulais dire rien que les femmes ne puissent accomplir. Moi, j'attends la suite. Je vais te tomber dessus à la fin de la chronique.
Eh oui, le piège sournois de la double négation. Subtilité typiquement Frenchie et apparemment inconnue chez Windows. On suppose que le véritable message s'achevait par « il n'y a rien que les femmes ne puissent accomplir ». Alors faites bien attention les enfants. Si vous ne maîtrisez pas la double négation, vous ne brillerez jamais dans les dîners en ville. Par contre, vous pourrez toujours postuler en tant que communicant chez Windows. Bon, Windows c'est fait, voyons la suite. Je le confesse, je fais des infidélités à Radio G en écoutant aussi France Culture. Une chaîne qui n'a pas que des supporters inconditionnels. C'est ainsi que j'entends souvent des gens me rétorquer.
Oui, bien sûr, la culture, mais entre nous, c'est passablement ennuyeux.
J'en ai même entendu certains user d'un adjectif bien plus explicite, évoquant sans embâge le transit intestinal, en s'accompagnant d'un soupir éloquent façon pneu de vélo soudainement crevé.
Pff, la culture.
Bref, la chaîne est fréquemment perçue comme trop élitiste et surtout pas drôle pour un sou. Eh bien, non seulement je m'inscris en faux contre cette perception, mais j'apporte aussi les preuves que culture peut parfois déclencher l'hilarité, ou du moins, chez les plus réfractaires à la rigolade, susciter à minima un rictus amusé. Continuons nos révisions et parlons maintenant d'orthographe. C'est ainsi que sur le site franceculture.fr, j'ai pu lire un intéressant article consacré au Père Noël. Oui, je sais, Henley, depuis décembre, c'est un peu dur réchauffé. Néanmoins, cela reste savoureux. Il était question, dans cet article du Père Noël, donc, de son traîneau et de ses rennes. R-E-I-N-E-S. Voilà qui met la barre assez haut en matière de dysorthographie créatrice. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je me dis que le Père Noël, entouré de drag queens ou de courtisanes, c'est du lourd. Ce n'est pas l'image que je me faisais de Santa Claus. Ou alors ce vieux bonhomme d'apparence débonnaire est un fieffé polygame qui cache bien son jeu.
Je ne sais pas si j'ose dire des choses que moi, il y a tellement de fautes dans mes écrits. Mais faites bien attention les enfants, les homonymes c'est risqué. Ça se prononce pareil, mais ça n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même signification.
Il est semble-t-il admis qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe avec les noms propres. Nous allons voir avec un autre exemple toujours pioché sur franceculture.fr, oui, le site a visiblement de la ressource, que c'est un peu plus complexe que cela. Et là, c'est un homme politique, François Baroin, en l'occurrence, qui en fait indirectement les frais. Notre homme est présenté comme maire de Troyes, ce qui est absolument exact, mais de Troyes, T-R-O-I-E, et non plus T-R-O-I, grec, ES, dans le département de l'Aube. Quel destin funeste tout de même. Être maire d'une ville pillée et détruite par les Grecs, voici de cela plusieurs millénaires. D'où peut-être cette expression « faire le ménage à Troyes »
Albert, ce calembour est lamentable.
Quand on sait que M. Baroin est également président des maires de France, l'on peut y voir comme un symbole redoutable pour les collectivités locales. Ce décalage temporel peut aussi se rencontrer chez les personnes invitées à participer à une émission. Émission qui incite, en raison de l'enthousiasme généré par la cause à défendre, à produire toutes les approximations et erreurs possibles. Comme ici, dans la bouche d'une responsable d'association œuvrant pour que le rôle de la France dans l'esclavage ne soit pas occulté.
Je n'oublie pas que Colbert a rétabli l'esclavage en 1802.
Certes, il est essentiel d'effectuer un travail mémoriel au sujet de l'immonde traite négrière. Toutefois, il ne faut pas non plus que la mémoire, précisément, joue des tours à celles et ceux qui ont entrepris de la préserver. Car dans cette affaire, Colbert, que, paraît-il, Louis XIV appelait familièrement « mon canard ».
Comment ça, mon canard ?
Un canard Colbert, bien sûr, les tartarins qui nous écoutent auront compris. Je disais donc, Colbert possède un alibi en ébène, en 1802. Il était mort depuis plus d'un siècle, ce qui le disculpe totalement. Notez bien, les enfants, le vrai responsable n'est autre que Napoléon Bonaparte, à savoir le plus célèbre des bandits corses. C'est lui, durant le consulat, qui a rétabli l'esclavage aboli moins de 10 ans auparavant par la Convention. Tiens, encore un grand humaniste dont il faudrait un jour que je fasse un portrait façon Jean Bodin. Alors, les captures d'écran de tout ce que j'ai raconté ce soir sont bien sûr visibles sur le site du Saltimbanque.
Qu'on mettra en lien sur le podcast de cette chronique sur le site de Radio G. Merci Albert.
Merci Annie.
Hâte de découvrir les prochaines chroniques et biographies.
En tout cas, moi qui suis fan des calembours, j'ai beaucoup aimé cette chronique.
Je vois que tu comprends beaucoup plus vite que moi les calembours d'Albert. Mais maintenant, c'est à toi, Céleste.
C'est vrai.
Avec le guichet choral, on parle cinéma.
Je ne sais pas si vous savez, mais très récemment est sortie la bande-annonce de Space Jam, Nouvelle Ère, une sorte de suite au Space Jam de Joe Pitka, sorti en 1996. Mais si, vous savez, Space Jam, le film avec Michael Jordan qui fait du basket avec les Looney Tunes.
Ouais, moi, à mon époque, on disait Space Jam.
Ah oui ?
Maintenant, je vois.
Space Jam, alors, si...
Non, mais je pense que tu as raison, Céleste.
Possiblement. Donc, c'était le film avec les Looney Tunes, avec Bugs Bunny, Daffy Duck, Grominet, etc. Un véritable film d'enfance pour certains, ovni filmique et bancal pour d'autres. Personnellement, il me laisse assez dubitatif, d'autant plus qu'il passe après Roger Rabbit, qui a un autre film mélangeant prise de vue réelle et animation à la main. Et la comparaison fait un peu mal à Space Jam. Parce que Roger Rabbit, c'est un peu un chef-d'œuvre. Enfin, selon moi, évidemment. Enfin, bref. Dans cette bande-annonce, qui transporte cette fois LeBron James, toujours en basketteur, aux côtés des célèbres personnages de cartoon, afin de sauver son fils. Je vous ai parlé des détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici. Au bout d'un moment, on voit tout un tas de personnages issus de la culture populaire, notamment Freddy Krueger, des Griffes de la Nuit, le Joker de Batman, le géant de fer du film éponyme, les personnages de l'histoire sans fin, de Matrix, des Goonies, Gremlins. Bref, un véritable gloobie-boulga de références plus ou moins subtiles, s'approchant un peu de l'overdose. Et ce n'est que la bande-annonce, alors je n'ose pas imaginer le film. On pourrait croire que la liste incommensurable de personnages et de licences utilisées est faite de façon aléatoire, et pourtant il y a un réel objectif. Toucher la corde sensible du spectateur en lui présentant des personnages qui lui sont familiers. Tout ça dans un environnement bien connu, celui des Looney Tunes. Tout ça n'est pas anodin, il vise à toucher la nostalgie du spectateur. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi beaucoup de films l'utilisent ? Peut-il être utilisé intelligemment ? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Prenez votre ticket, moi Céleste du Guichet Choral vous propose une séance autour de la nostalgie. Alors, nostalgie, définition. Station de radio FM française créée en 83 à Lyon par Pierre Alberti. Attendez, non, c'est pas ça. Ah, voilà. Sentiment de regret d'une époque révolue. La nostalgie est, pour paraphraser la définition, une sorte de sentiment mélancolique nous rappelant notre passé ou une époque antérieure que l'on n'a pas connue. Quand vous voyez ce type déclarer avec un dédaigneux c'était mieux avant, c'est de la nostalgie. Quand vous entendez Charles Aznavour, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday à la radio, c'est nostalgie.
Et sinon, pour le cinéma ?
C'est à peu près pareil. On joue sur la corde sensible du spectateur ou de la spectatrice en lui proposant un film ou une série qui serait en sorte une Madeleine de Proust pour elle ou pour lui. Avec cette démarche, les studios cherchent à capitaliser sur une licence, un nom ou une ambiance qui était plus commune 20 ans ou 30 ans auparavant. Il y a plusieurs moyens d'utiliser la nostalgie au cinéma, pour le meilleur comme pour le pire. Vous l'avez deviné, on passe aux exemples pratiques. La nostalgie au cinéma se manifeste sous différentes formes. Déjà sous forme de remake. Souvenez-vous de ma chronique sur le sujet il y a à peu près un mois. Remake signifie refaire. Cela veut dire qu'on remet un film, un vieux film, au goût du jour. Il y en a eu une pelletée, évidemment, je vous rappelle ma chronique. Mais ce sont bien plus des volontés de réalisateurs plutôt que celles des studios qui veulent capitaliser sur un nom bien connu. Enfin, presque tout le temps. Car oui, il y a une compagnie qui s'en tamponne de ça. Vous la connaissez, j'en ai déjà parlé. Les remakes Disney.
I never had friend like me.
On prend les mêmes et on recommence. C'est un peu ce qu'on peut dire de ces films. Vous prenez les films de votre enfance, genre Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, ou Dumbo si vous avez plus de 80 ans. Vous prenez des stars actuelles, ou non, genre Emma Watson, Will Smith, Tim Burton, Beyoncé, et vous copiez-collez le dessin animé, tout simplement. J'ai déjà dit ce que je pensais dans ma précédente chronique, spoiler, c'était pas du bien. Mais ici, c'est une autre facette qui nous intéresse, le fait d'utiliser des films particuliers. Parce que des Disney, il en existe un très grand nombre. 59, en comptant celui qui vient de sortir, et en ne prenant que les films labellisés classiques d'animation Disney. Sinon, il y en a à peu près 120. Pourtant, quand on regarde les films qui ont eu le droit à une version actualisée, qui sont au nombre de 16, dont 13 sortis ces 10 dernières années, il y en a presque autant qui sont actuellement en projet ou sur le point de sortir. Donc sur ces 30 films, 22 ne sont ni des suites ni des remakes de leurs remakes, carrément. Ce qui fait que sur 59 classiques d'animation Disney sortis, 22 ont eu droit ou auront le droit à un remake où le choix des films d'animation sélectionnés ne sont pas anodins. Aladdin, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Dumbo, La Petite Sirène, tous ont fait les heures de gloire de l'entreprise aux grandes oreilles. Tous constituent un moment, un instant de la vie d'un enfant comme vous et moi qui a usé la VHS de leur classique Disney préféré. Et c'est cet instant que la compagnie cherche à reproduire en remakant leur plus grand succès. Ils incitent donc les adultes nés dans les années 70 et après, puisque la première VHS a été commercialisée en 80, à emmener leurs enfants profiter de ces films sur grand écran en voulant se baigner dans 1h30 à 2h de pure nostalgie. Et ça, c'est de la nostalgie facile. Les remakes n'ajoutent pas ou peu d'éléments à l'histoire ou à la mythologie des films originaux. C'est comme ressortir une vieille franchise de films pour en faire une suite, comme Jurassic World, suite de Jurassic Park. Même si j'avoue que je trouve le deuxième volet de Jurassic World intitulé Fallen Kingdom absolument génial. Les films Ghostbusters qui ont eu un film sympatoche mais assez inutile en 2016 et un film qui aurait dû sortir cette année mais qu'on attend toujours. Space Jam, ou Space Jam, dont je vous ai parlé au début. Ou même Star Wars, mais ça c'est un cas particulier que j'évoquerai un peu plus tard, car chaque chose en son temps. Donc oui, il y a des films, des franchises et des compagnies qui veulent capitaliser malhonnêtement sur notre chère enfance. Mais il y a des films qui savent le faire avec assez d'intérêt. C'est le cas de Spielberg, avec le film Ready Player One, sorti en 2018. Ready Player One, adapté du livre du même nom, se déroule en 2045 et nous raconte l'histoire de Wade Watts, un ado qui, comme un très grand nombre de personnes, se réfugie dans un monde en réalité virtuelle pour oublier les soucis du quotidien, donc du genre crise énergétique, guerre, pauvreté, joie. Ce monde virtuel se nomme l'Oasis et a été créé par un homme nommé James Halliday. Celui-ci, à sa mort, a promis de léguer l'intégralité de ses actions ainsi que l'Oasis à la personne qui retrouvera trois clés au terme de trois épreuves disséminées dans le monde virtuel. Le scénario est assez classique, hein, il s'agit d'une quête en trois étapes, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que pour retrouver ces trois clés, les personnes doivent plonger dans les souvenirs et la jeunesse du concepteur. La nostalgie est ici un point central du film, puisque c'est ce qu'expérimentent les personnages, à fouiller parmi l'enfance d'Halliday, qui devait avoir une enfance autour aux alentours des années 80. L'esthétique du film, les références et les musiques sont donc empreintes de ces années-là. La nostalgie se transparaît dans tous les aspects du film, jusque dans sa réalisation, Steven Spielberg étant lui-même un grand fan de culture populaire, mais surtout des années 80. Cela a d'ailleurs été critiqué. L'avalanche de références culturelles, cachées ou non, ont été vues surtout comme une envie d'amener les gens au cinéma juste pour voir les personnages cachés. Personnellement, je comprends l'intégration de ces références, là où c'est plus nébuleux dans d'autres films. Surtout quand on considère l'environnement du film. Il s'agit d'un monde virtuel dans lequel vont les gens pour s'échapper du quotidien angoissant, donc évidemment ils vont se réfugier dans quelque chose de rassurant, quelque chose qui les conforte, comme un souvenir de leur enfance ou un film avec lequel ils ont grandi. C'est pour ça qu'on peut voir dans le film la DeLorean de Retour vers le futur, des costumes iconiques ou même le géant de fer. L'esthétique des années 80-90 se retrouve aussi dans des séries Netflix comme Stranger Things ou des films comme ça. Ce qui est intéressant à propos de ce dernier, c'est que l'action du livre se déroule dans les années 50. Et le réalisateur et le scénariste ont voulu transposer ça dans les années 80, comme, euh, comme Stranger Things qui se déroule dans les années 80, car cela parlait davantage au public actuel. Parfois, la nostalgie permet d'ajouter une sorte d'empathie envers les personnages, puisque l'environnement familier, donc celui de notre enfance, pas la mienne, mais ceux des personnes nées dans les années 70-80, peut jouer sur la vision qu'on a de ce qu'il se passe. Évidemment, cela ne fonctionne que si on est né dans la décennie des peintes. Je ne dis pas que les personnes comme moi, donc nées dans les années 2000, ne peuvent pas apprécier, mais l'impact sera moins puissant. Ou même, cela peut faire naître chez les générations futures une sorte de nostalgie pour l'ancien temps. Exactement le sujet de notre dernière partie, le 7e volet de la saga Star Wars intitulé « Le réveil de la Force ».
Excusez-moi, c'est pas le bon.
Son chiffre, Star Wars 7 est une suite, celle de deux trilogies, l'une initiée en 77 et l'autre en 99. La première s'est terminée en 84 et la deuxième en 2005. C'est donc deux générations qui ont été marquées par Star Wars. Lorsque Lucasfilm, désormais possédé par Disney, car le monde est petit, a décidé de réaliser une troisième série de films, il y a eu les dubitatifs, qui ne voulaient pas voir Disney capitaliser encore sur une franchise avec succès qui a eu ses heures de gloire 15 et 40 ans auparavant. Il y a eu aussi les enthousiastes qui voulaient revoir cet univers sur grand écran et les nouveaux comme moi qui avaient hâte d'enfin pouvoir voir la saga au cinéma. Cette troisième trilogie se déroule donc 30 ans après les événements de la deuxième trilogie, donc les épisodes 4, 5 et 6, à savoir la défaite du grand méchant Empire. On suit donc une nouvelle génération de héros, exit les Luke Skywalker, les Han Solo et les Chewbacca qui tiennent plus de la légende. Bonjour Finn et Rey, deux personnes assez lambda mais qui vont réussir à faire de grandes choses. Beaucoup vous diront que ce film est un remake, oui, encore ce mot, de l'épisode 4. En effet, le film commence sur une planète déserte avec un orphelin qui découvre un droïde qui va l'amener vers une figure du passé qui se trouve être un grand général. Le droïde contient des plans, blablabla, il y a une grosse base qui peut détruire des planètes, blablabla, il y a un méchant avec un casque, blablabla, sabre laser. Oui, il y a des similitudes et en même temps, le Star Wars de 77 n'était pas non plus très original. Il reprenait beaucoup d'éléments du livre de Joseph Campbell, Le héros mille visages, ainsi que du film japonais La forteresse cachée d'Akira Kurosawa. De plus, la réalisation de J.J. Abrams est plus inspirée que celle de George Lucas, offrant des plans d'ensemble magnifiques et une action un peu plus rythmée, aidée, il est vrai, par des effets spéciaux qui se permettent d'être un peu plus actuels que ceux du film de 77. Mais ici, le but n'est pas de défendre Star Wars 7, même si j'avoue que je pourrais le faire pendant des heures. Non. Ici, on parle de nostalgie. C'est le sujet de la chronique. Certains ont surnommé la troisième trilogie Star Wars de « nostalgie », car elle semblait beaucoup utilisée de moments ou de personnages des films précédents juste pour brosser le spectateur dans le sens du poil. Ce qui a fini par arriver avec l'épisode 9, tant les fans, entre guillemets, ont râlé avec le 7 et le 8. Et je suis pas d'accord avec ce terme de nostalgie. Star Wars 7 a le génie de parler des répercussions de l'après-bataille. La deuxième trilogie, sortie étant un prequel, à savoir qu'elle contenait les événements se déroulant avant la trilogie originale, c'était celle des films sortis entre 77 et 84, c'est la première fois que l'on pouvait vraiment observer les conséquences de la guerre contre l'Empire des films 4, 5 et 6, donc ceux sortis originellement. Nous avons donc toute une génération de personnages qui ont grandi avec les histoires sur Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, les faisant devenir des personnages de légende bien plus que des réelles personnes. Donc ces personnes ont pu devenir des modèles pour certains. Mais ce n'est pas tout. Là où les héros sont devenus des figures importantes de l'histoire, les vilains aussi. Comme partout, il y a eu des fanatiques, des personnes qui ont été inspirées par le moment et les idées de l'Empire déchu, à la manière des néo-nazis, là où l'Empire était le reflet de l'Allemagne des années 40. Et c'est ainsi que des cendres de l'Empire est né le Premier Ordre, une sorte de groupuscule extrémiste qui a à sa tête un descendant de Dark Vador, donc qui était la figure de proue de l'Empire, avec un grand E. Des deux côtés, on a alors des personnages inspirés par le passé, bien plus que nostalgiques d'une époque révolue. Cette nouvelle trilogie n'était pas là pour parler aux fans des deux anciennes trilogies, celles qui ont forgé la légende, mais bien plus pour accueillir de nouveaux adeptes, entre guillemets. Des enfants, ados ou adultes, qui ont grandi avec les histoires qu'on leur a racontées à propos des premiers films. De Dark Vador, d'Obi-Wan Kenobi. Des enfants comme moi qui voulaient avoir leur propre aventure. C'est ça que Star Wars 7 raconte. Des personnages qui veulent vivre l'aventure contée dans les légendes. Des personnages qui veulent faire partie d'un mythe. Star Wars 7 est un cas particulier de nostalgie dans le sens où le sujet principal n'est pas la nostalgie. Les seuls qui rêvent d'une époque révolue sont en réalité le Premier Ordre, donc les grands méchants, qui veulent voir l'Empire renaître. La nostalgie au cinéma est quelque chose de très délicat. dans le sens où il faut savoir la manipuler sans tomber dans une bête accumulation de références pour plaire aux fans de choses qu'il y a d'il y a 20 ou 30 ans. Il est plus intéressant de la traiter sous forme d'ambiance plutôt que frontalement, un peu comme dans ça. Voire prendre à contre-pied l'idée, avoir un ou des antagonistes nostalgiques bloqués dans le passé et des protagonistes qui veulent forger leur propre histoire. Je vous laisse avec un son nostalgique entre guillemets, avec des synthétiseurs, donc bien années 80-90, et qui est issu d'un film qui me fait le même effet qu'un bon plaid et un chocolat chaud, Eye to Eye de Tevin Campbell et Rosie Gaines, tiré du film Dingo et Max. Soyez toujours critiques devant des films et voyez-en pendant le confinement, vous avez le temps. Prenez soin de vous évidemment. Salut.
D'énergie. Céleste a encore hacké la programmation musicale de Radio G. Merci
comme
Céleste
toujours,
pour cette chronique. à retrouver en podcast sur le site de Radio G, le guichet choral, c'est très facile.
Bien évidemment.
Et maintenant, dans l'oreille curieuse, on a le temps et le plaisir de retrouver, il faut que je retrouve le bon bouton, Pierre Hugo avec le petit lexique du théâtre. Salut Pierre Hugo.
Salut, ça va, vous allez bien?
Oui, on est ravis de t'entendre.
Ouais, moi aussi je suis content, même par téléphone, ça fait toujours plaisir d'être là.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai réfléchi à un nouveau concept théâtral, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est de monter des spectacles clandestins à jouer dans les repas clandestins. Je me dis que si je me débrouille pour mettre en scène du homard, peut-être je vais faire le buzz dans les médias et me faire beaucoup d'argent.
Bah, peut-être, je crois que t'as des contacts, toi, dans les repas clandestins, Céleste.
Ouais, j'ai des... Ouais, ok.
Céleste, toi, ouais. Dans... oui.
Moi, le seul problème, c'est que j'ai pas de homard pour l'instant, mais je peux bosser pour essayer de le mettre en scène, quoi.
Ouais.
Petit projet que j'ai, si ça vous évoque quelque chose.
Si des personnes veulent te rejoindre.
Ouais. Ouais, ça peut être... un projet, quoi, on sait jamais. Mais en attendant, moi, je vais reprendre du coup sur mon lexique. Anne-Lie, j'espère que tu as fait un peu tes devoirs de rattrapage, parce que la dernière fois avec Céleste et Mehdi, on a quand même attaqué sur l'espace au théâtre, et c'est coriace. Hein.
Oui.
Alors, moi, je vous invite quand même à bien vous asseoir, confortable, parce que là, on va décoller, on retourne sous le feu, non pas des étoiles, mais des projecteurs. Et je vais vous faire un peu participer. Il va y avoir des petites questions, donc soyez à l'affût.
On est stressé, mais on
coup,
est prêt.
Ouais, j'espère bien. La dernière fois, je parlais de l'espace et je disais que c'était sans doute la première chose à laquelle il fallait réfléchir pour toute création. C'est la première question qu'un acteur ou qu'un metteur en scène, à mon avis, doit se poser sur ce qu'il va faire en fait. Et la question, c'est quel est mon espace? Dans quoi tout ça va se passer? Et c'est très pratique parce qu'heureusement, c'est possible de faire quelques sous-parties pour bien se mettre d'accord sur le sujet. Alors, je vous ai prévenu, petit test, si je vous demande la différence entre la comédie, la tragédie, le drame et la farce, vous me dites quoi? Comme ça, ça vous évoque quoi?
À quel point on rigole?
C'est le ton employé.
Ok. Oui.
Tu dis quoi, celle-là? J'ai pas entendu.
C'est le ton employé, genre la tragédie, c'est triste. Le drame aussi. Okay. La farce, c'est rigolo.
Alors... on va faire un truc. On va différencier plusieurs choses parce que, ouais, ces mots, ils n'ont pas tout à fait le même sens dans le langage quotidien, dans le langage parlé, et en fonction du contexte dans lequel on les emploie, c'est pas pareil. Alors, la comédie, c'est un excellent exemple, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que tout le monde, si on parle d'aller voir une comédie ou d'un film qu'on dit comique, on fait souvent l'amalgame entre les deux choses, ben, on est toujours plus ou moins d'accord, on va avoir affaire à quelque chose de drôle, et ben non, perdu, voilà, en tout cas au théâtre, hein, presque perdu. En tout cas, j'ai lire. Je m'explique. Parce que quand on parle d'espace, pour une comédie, ben, c'est pas forcément drôle. Et un drame, c'est pas forcément triste. Et une tragédie, c'est pas forcément sérieux. En fait, il s'agit, en réalité, de la première indication concrète d'une pièce sur le comment que ça va donc se passer cette affaire. Et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est pas ce qu'on apprend au lycée sur les quatre genres. Il faut bien distinguer la différence qu'il y a entre aborder une œuvre d'un point de vue littéraire et l'aborder d'un point de vue théâtral. On cherche pas les mêmes choses. Et au théâtre, on a en effet quatre grands genres d'espace que je répète, comédie, drame, tragédie et farce. Il y a mille façons de les décliner, mais on se retrouve quand même à chaque fois autour de ces quatre choses-là. Et voilà, on a quatre genres et sans surprise, ce sera le sujet de mes prochaines chroniques. Vous avez déjà le programme et j'attaque directement, comme je disais, sur la comédie. Comme ça, c'est fait et on va voir que c'est un des genres où il y a quand même le plus de clichés, disons, à démonter. Voilà, alors je vais faire simple. Une comédie n'est pas forcément drôle. Voilà, merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans deux semaines. Je déconne, j'explique. Si j'ouvre la mouette de Tchekhov, je lis comédie. Et la première chose que ça m'explique, c'est que cette pièce est écrite et pensée pour être jouée dans un espace comique. Et la mouette, c'est pas hilarant. Mais alors, c'est quoi est-ce un espace comique? Alors là, on attaque. Il y a des règles. Et la première en comédie, c'est que le public, il est là. Enfin, quand il vient, il est là. Et on le sait, nous les acteurs, les personnages parlent au public. Il est témoin de toute la trame. C'est vraiment un acteur à part entière. On lui parle directement, c'est ce qu'on appelle de façon barbare faire des apartés. Et l'aparté, c'est pas juste une indication de l'auteur, quoi. C'est vraiment une rupture pour un acteur. Il change d'espace de jeu. Il passe d'un jeu avec son partenaire, d'un personnage à un autre personnage, à un jeu avec le public. Il va lui confier une information supplémentaire. Alors là, le quatrième mur, il n'y en a pas. Bon, moi je suis partisan de dire qu'il n'y en a jamais. Mais alors là, il n'y en a pas. Les gens, ils sont là, et puis c'est tout. Bah, si je suis en train, admettons Annie, de te dire, oh, Annie, je trouve que l'émission est formidable, mais vous savez, je trouve qu'elle devrait augmenter. Et je pense qu'il faut commencer à évaluer d'autres façons d'employer les gens. Voilà. Petit aparté que j'ai fait, c'est un peu plus compliqué à la radio, on va pas se mentir. Mmh. mais l'idée, c'est, voilà, je donne des informations à des gens qui sont vraiment là. Un autre grand élément, après celui-ci qui est quand même primordial, c'est l'espace comique sur la scène elle-même. Une comédie, ça se passe dans un milieu fermé. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que le public voit sur scène correspond parfaitement à ce qui existe également pour les personnages. Alors souvent, on met des murs, des portes pour raconter la chose, mais concrètement, ça veut surtout dire qu'on ne fera jamais croire dans une comédie que soudainement la scène est remplie d'eau, qu'il y a une tempête qui éclate. Et si c'est le cas, alors il va y avoir un boulot de fou pour les machinistes, les éclairagistes, parce que ça va devoir avoir lieu d'une façon ou d'une autre, plus ou moins concrète, plus ou moins poétique, mais ça aura lieu. Et quand on sort de scène, quand le personnage sort de scène, sort du lieu, ils vont vraiment ailleurs. La scène, c'est pas, imaginons, une grande étendue, et puis l'étendue de la prairie continue dans les coulisses. Non, il y a l'espace qu'on nous montre, et autre chose à côté. Une cuisine, par exemple. D'ailleurs, Cuisine et dépendance de Djaoui Bakri, c'est très concret pour ça. L'espace est comique, donc il se passe exclusivement dans la cuisine, et quand les personnages sortent de scène, ils vont, admettons, dans le salon. L'espace, il est défini. Il est fini. Alors, j'insiste sur ça, parce que vous verrez, c'est pas forcément le cas dans d'autres genres. On y reviendra, mais je vais vous laisser digérer. On a pas mal d'infos, j'espère que c'est pas trop indigeste. Et je conclue quand même en le redisant, non, une comédie n'est pas toujours drôle. Mais, en tant que spectateur, c'est quand même incroyable, parce que les personnages viennent à vous, ils viennent vous chercher pour vous raconter leur histoire, ils vous en rendent réellement témoin, vous n'êtes pas simplement voyeur, vous êtes sujet de l'histoire. Et en général, voilà, c'est eux qui font le premier pas et pas l'inverse, et on ne va pas se mentir, c'est quand même très agréable quand l'autre fait le premier pas. Voilà, bon, je termine sur ça pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fin d'émission, qui est d'ailleurs terminée, si je ne dis pas de bêtises.
On est un peu en retard, mais c'est avec un grand plaisir. Mais...
Ouais, ça commence à devenir technique.
Et tu n'es pas responsable en plus, Pierre Hugo.
À la bonne heure.
Le cafouillage de timing, c'est pour ma pomme.
J'aime être déresponsabilisé.
Non, mais là, c'est vrai. Merci beaucoup pour cette chronique. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
C'était super intéressant. Cool.
Donc, La Cantatrice Chauve, c'est une comédie?
La Cantatrice Chauve, de tête, c'est pas une comédie, justement.
Ah mince, bon, j'aurais tenté. Bon,
mais c'est marrant. à revérifier, c'est peut-être sur un démenti la prochaine fois.
À revérifier. Et puis les sitcoms, c'est un peu des comédies.
Ouais, alors la sitcom, on est en plein dedans, clairement. Mmh. Après, moi je parle vraiment au théâtre, hein. Oui, c'est plus mon sujet. Au cinéma, c'est quand même encore autre chose.
Très bien. Bon, bah merci beaucoup.
Je serai laïus sur ça.
Très
merci
bien.
À vous.
À dans deux semaines pour la suite de ces genres.
Ouais. Ça marche, bonne soirée.
C'est la fin de cette émission. Effectivement, on est un petit peu en retard ce soir. Ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, donc j'en suis presque heureuse. Je m'en félicite presque. Merci beaucoup, Céleste.
Mais de rien, ça me fait plaisir d'être là.
Tu as sauvé cette émission. Personne ne le sait, mais en fait, c'est vrai. Tu es la personne clé ce soir. On te retrouve mercredi prochain pour un prochain Guichet Choral en direct. Si vous avez envie de réécouter l'émission et toutes ces chroniques, ça se passe sur le site de Radio G, à la page de l'Oreille Curieuse. Nous, on se retrouve demain à 18h10, on sera jeudi, et un jeudi sur deux, on retrouve Benoît pour parler de sciences, de nature et d'environnement. Plein de choses à apprendre, comme à chaque fois. Quoi dire d'autre? Vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos retours sur cette émission, ça se passe sur le site de la radio, ou bien sur les réseaux sociaux de Radio G, c'est très facile. Qu'est-ce que j'ai oublié, Céleste? Interro surprise. De rendre l'antenne, oui.
Oui, bah, pas grand-chose d'autre. Je pense que t'as tout dit, les podcasts, tout ça. Vous pouvez nous écrire à prog.radiog@gmail.com.
J'arrête de te piéger. Sachez que Radio G vient de lancer son appel à projet pour des nouvelles émissions. Donc si vous avez envie d'être à l'antenne à partir de septembre, vous pouvez nous faire part de vos idées. Toutes les infos sont en ligne sur le site. On en reparlera en long, en large, en détail, en travers. Et vous avez jusqu'au 15 juin pour proposer une nouvelle émission. Voilà pour tout ce qu'on avait à vous dire ce soir. À 19h, dans quelques minutes, 6 minutes 30 pour être exact, vous retrouvez Bande Geek Mafia, le mag Infoculture. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Toi
aussi,
Céleste ?
Je vous souhaite également, ouais, une excellente soirée.
Merci.
À la semaine prochaine.
À demain.
Radio G, 101.5 FM.
Out of leaves, you can almost tell this. discovery. The plane is fast and the people are tiny. I'm on my floor, almost at my room. I think I won't go to bed this soon. I switch the channel and jump into a scene. The symbol on play, playing in the big street. He moves his hammers on the string so fierce. A song about a shadow in the big street. Resonating in the streets, the sound of a hammering theme. All the spirits of the past are sung to at last. And give that gypsy girl some gloom, so she don't cast her spells on real. Standing like a doll on a string.
www.radio-g.fr.